רב ברכיה, ברכיה בשם לוי, אמר, אותן האבנים שנתן יעקב אבינו תחת ראשו, נעשו תחתיו כמיטה וכפרנוס. Ça, on a déjà vu, hein, en vérité. Celui-là, on l'a fait. Peut-être le prochain, je ne suis pas... Oui, je vais prendre le prochain, parce que même si on a commencé, on n'a sûrement pas fini. C'est Rabbi Yehuda, hein? Ça, c'est le verset. Il s'est couché à cet endroit-là. Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia. Rabbi Yehuda amar kan shachav, aval kol yudal shana shaya tamun bebet ever lo shachav. Rabbi Yehuda dit les 14 années où il s'est enfoui littéralement dans la yeshiva de Ever, il ne s'est pas couché. C'est pas qu'il n'a pas dormi, parce que c'est pas possible. Mais il ne s'est jamais couché, c'est-à-dire qu'en fait, quand il était fatigué, ben, il se mettait sa tête sur son bras, d'une manière ou d'une autre, et il dormait. Ça, c'est ce que dit Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda, il dit, en fait, à cet endroit-là, il s'est couché, et il ne s'était jamais couché avant. Rabbi Nechemia amar, kan shachav aval kol kav shana she'aman beveto shel Lavan lo shachav. Mais... Lui, Rav Nechemia, il parle du futur. Il se couche ici, mais les 20 ans chez Lavan, il ne va pas se coucher. Quand il sera au service de Lavan, il ne se couche jamais. Donc évidemment, chacun prend le présent, le verset est au présent, d'accord ? Il vient exclure... Chacun dit, ben, l'un dit ça exclut le passé, et l'autre dit ça exclut le futur. Parce que le présent, d'une certaine manière, c'est ni le présent, ni le futur. Maya Omer, que disait-il littéralement? Où est-ce qu'on sait qu'il disait quelque chose? Vous avez entendu, le Etz Yosef, il dit, regardez là, la colonne droite, là, il dit, Bebet Lavan, Aya Meshaber Lachem, Umsaperti Lotav, qui baisait Lotit Batel Shmirat Hatson. Lui, il explique que certainement, il n'allait pas ne rien faire, ne penser à rien, ne rien dire, etc. Il étudiait. Mais qu'est-ce qu'il étudiait ou qu'est-ce qu'il disait? Il fallait qu'il dise quelque chose qu'il ne le détourne pas, qu'il ne distrait pas de la surveillance du troupeau qu'il avait en charge. Donc dire, des Tehillim en fait, dire la gloire d'Hachem, ça c'est quelque chose ça ne va pas l'empêcher d'être parfaitement vigilant pour surveiller. Par contre, s'il s'était mis dans l'étude, dans l'étude, ça vous prend la tête et il sera plus attentif il ne sera pas capable de surveiller les troupeaux. Le Matnat Kehuna, il dit en bas, il dit Maya Omer, d'où est-ce qu'on sait qu'il disait quelque chose, et il ajoute Balaila, qui va chez le Shachav, puisqu'il ne s'est pas couché, et Amrinan me masechet avot, à Neor Balaila. On dit dans Pirkei Avot que celui qui est éveillé de nuit, ben, il a une insomnie par exemple, et il laisse vagabonder son cœur littéralement vers rien du tout, quoi, et il fait rien de son temps. Arezé mitraev benafsho, il est passible de mort. C'est un temps extraordinaire. C'est un temps qu'on te donne en... au lieu de passer ton temps à pester sur l'insomnie, d'accord, fais-en quelque chose. Et tu dis, fais quelque chose, c'est un temps extraordinaire parce qu'il n'y a pas de bruit en général. Donc tu es libre de réfléchir, etc. Personne ne te dérange. Fais-en quelque chose. Si tu n'en fais rien, alors tu montres que, d'une certaine façon, tu fais rien de ton temps libre. C'est-à-dire que quand quelqu'un, normalement, un juif, la fonction d'un juif, c'est d'étudier la Torah. Alors on ne peut pas étudier tout le temps, parce qu'il y a des moments où je dois faire autre chose. Il n'y a aucun problème. Quand tu dois faire autre chose, c'est tout à fait dispensé. Mais si, quand tu es totalement libre, tu n'étudies pas, tu montres qu'en réalité, quand tu n'as pas étudié parce que tu faisais autre chose, c'est pas à cause de l'autre chose. C'est que de toute manière, tu n'auras rien fait de ce temps-là. Donc, à la limite, tu perds le bénéfice de la couverture que te donnait ta parnassa ou autre chose. Et tu perds cet avantage-là.
C'est pas une idée à gérer, parce qu'avec ce système, par exemple, on peut lire de romans...
Ah non, on peut. Oui, sauf si on considère, si vous considérez que vous en avez besoin pour vous détendre, pour pouvoir étudier, alors ça a un sens. Mais prendre du temps comme ça, parce que, comme ça, peut-être effectivement on n'en a pas le droit. Personne, qui est-ce qui dit que, j'entends bien dans la question, il faudrait étudier, mais qui dit que c'est ça? Je veux dire, peut-être qu'on a besoin de se former l'imagination, on a besoin, si on arrive à entrer tout ça dans le... à mettre ça au service, c'est comme de manger, boire, dormir, etc. Si c'est au service de l'étude de la Torah, c'est pas du temps perdu. Sinon, c'est du temps perdu. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des lectures qui sont des lectures qui vous construisent, et là-dessus, tout le monde en est d'accord, et puis il y a des lectures qui ne construisent rien du tout et qui sont d'une perte de temps sèche. Je veux dire, je pense qu'on en est tous d'accord, même si il nous arrive de perdre du temps. Donc lui, qu'est-ce qu'on dit ici? Lui, il dit là, voilà, qu'est-ce qu'il a maintenant là, il dit, on peut pas se permettre de ne rien faire. Et donc il devait dire quelque chose. Alors qu'est-ce que dit le Midrash? Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Tetvav Shira Maalot, Shebe Sefer Tehilim. Il disait, qu'est-ce qu'ils veulent ceux-là? J'ai pourtant convaincu tout le monde. Un instant, ça, je vais fermer ça. J'avais fait un contact avec tout le monde là. Et je vous ai tous appelé là maintenant.
Oh merde, je n'ai aussi pas rendu compte, excusez-moi. Je n'ai pas vu.
Vous n'avez pas répondu alors. Je referme ça. Parce que sinon on va couper les autres. Si c'est pas déjà fait d'ailleurs.
Non, je suis là.
Tu es là, mais. Nathalie, vous êtes là?
Non.
Non, il n'y a que Bellamy et moi.
Ouais, mais c'est pas bon.
Non, parce que j'ai fait.
Je vais couper, oui. Coupez tout. J'appelle le groupe. Voilà, vous êtes tous là maintenant? Appelez le groupe. Il est où, Khan?
Allô?
Oui? Tout le monde est là?
Oui, bonsoir.
Oui. Vous êtes là? Khan, vous êtes là aussi? Pourquoi il apparaît pas sur mon truc? J'ai mis tout le monde?
Non,
mais Khan, il est pas là. Il est pas à titre individuel sur mon machin.
Voilà. Vous n'avez pas rajouté Khan dans le groupe?
Je l'avais mis, mais moi je l'avais mis parce que j'ai repris le groupe ancien. Ah ouais. Je l'ai ajouté tout le groupe, donc il devait être là-dedans, mais je ne le vois pas. Bon, attends, on va le mettre. Jean-Claude Khan. Voilà, il faut que je coupe le groupe. Un instant. Alors, coupez tout.
On coupe.
On va couper. Je vais ajouter un contact. Ah non, c'est pas ça qu'il faut faire. Un groupe. Et un groupe. Alors, ce groupe-là, je vais le mettre là. Arrêtez d'appeler. Sabrina. L'appel a échoué, évidemment. Rien, moi, c'est pas possible. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous appelez tout le temps, alors j'appelle le groupe, j'ai formé un groupe, vous êtes dedans.
Là, je n'appelle plus.
Oui, ben arrêtez. Cessez d'appeler. J'appelle le groupe, vous êtes dedans, ou vous répondez, vous ne répondez pas.
Allô?
Voilà.
Allô?
Voilà, vous êtes dedans. Guirceau, vous êtes là?
Si, il est là, Khan.
Khan, je vois, mais pas Guirceau.
Oui, tout le monde est là. Il y a Khan, il y a...
Vous êtes là, Guirceau? Thierry, vous êtes là?
Je suis là, merci.
Parfait.
Alors, merci. Si vous êtes...
Parfait, ok. Bien. Alors, lui, Rabbi Yehoshua ben Lévi, il disait les 15 Shiramalot. Il y a dans les Tehillim, il y a 15 Shiramalot. En fait, il y en a 14 et un Shir Lamalot. En tout, donc, on appelle ça 15 Shiramalot. C'était les Teilim que disaient les Luim quand ils montaient les différentes marches pour passer les Atnashim à la Hazara. C'est ça qu'ils disaient. Alors, Maïta Ameh, Pourquoi est-ce qu'il disait ça? Shira Ma'alot le David, Lule Hashem Shaya Lanu, Yomar Na Israël, Israël Saba. Alors, il disait ces psaumes, les 15 psaumes-là, parce qu'il y a dedans, dans ces. C'est une allusion, comme c'est marqué, Lule Hashem Shaya Lanu, si Hashem n'avait pas été pour nous, en quelque sorte, Yomar Na Israël. Et Yomarna Israël, c'est aussi le nom de Yaakov. Donc il disait son nom dans le. Il disait les Tehilim qui disent son nom. Israël Saba, Israël l'ancien, c'est-à-dire c'est lui, Yaakov. Rab Shmuel Bar Nachman Amar, Kol Sefer Tehilim Ayomer. Lui dit, Rab Shmuel Bar Nachman, il disait tout Sefer Tehilim, Matam, Vata Kadosh Yoshev Tilot Israël, Israël Saba. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il disait les Tehilim, ou une partie des Tehilim, parce que dans ces Tehilim-là, il y avait son nom. Alors, pourquoi il disait justement les Tehilim où il y avait son nom? Alors, Maïtame de Rabbi Yoshua ben Levi, ou Minale de Yaakov Amaram, d'où est-ce qu'il sait, je lis le Etz Yosef, Israël Saba, ou Mine Kamar Mizmor, Zé, Mistama, Amar, Kol, A, Tedvav, Mizmorim. Vraisemblablement, il a dit, effectivement, tous les. Ça s'en est un seul. Il y en a un qui parle d'Israël Saba. Et à ce moment-là, il a vraisemblablement dit tous les Tehilim qu'il contenait, ou bien les 15, ou bien tout le Sefer Tehilim, comme les deux opinions ici. C'est-à-dire tout ce qui était. Tous les Tehilim qui étaient fondés sur. Les louanges d'Hachem et les chassanim qu'il a dit. Lachen nikra biyichud tilot Israël. Pourquoi est-ce que, bon. Alors maintenant, d'autres disent, pourquoi est-ce que Rabbi Yoshua ben Levi, d'où est-ce qu'il sait tout ça? Pourquoi est-ce qu'il aurait dit justement ces Tehilim-là? Qu'est-ce que c'est que cette référence à Israël Saba? Qu'est-ce qu'il a voulu dire en disant, il dit les Tehilim qui contiennent son nom, n'est-ce pas? C'est ça qui est intéressant. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque part, dire ces Tehilim qui disent la louange d'Hachem, de lui avoir donné cette postérité, parce qu'il fait référence à des Tehilim qui vont être dits par David, par la suite. Donc ça veut dire que, en quelque sorte, il y aura une suite. N'est-ce pas? Il ne faut pas oublier que celui qui se couche là et qui dit ça, c'est Yaakov qui n'est pas marié. Oui, il n'est pas encore allé chez Laban. Il n'a pas encore rencontré ses épouses. Il a 84 ans quand il va se marier. Donc il est déjà assez âgé et il n'a toujours pas été mahamid le clan Israël. Il n'a pas commencé. Donc en fait, de dire des Tehilim qui le présente lui comme étant. Qui dit que son nom, qu'il n'a pas encore reçu comme ça, mais bon, que son nom, c'est le nom du peuple juif, en fait, c'est une façon de se faire exister, en quelque sorte. Vayachalom, veine sulam. Il a rêvé, et voici une échelle. Vous voyez, Vayachalom, il a rêvé, on a l'impression qu'il a eu la force de rêver, en quelque sorte. Il fallait, quelque part, il fallait oser rêver. C'est-à-dire, c'est oser rêver au sens où, effectivement, il fallait oser penser cette échelle. Oser penser qu'il allait, c'est un peu la suite de ce qui a été dit précédemment, il a compris que, en disant cet Tehilim-là, ça fait une référence à son éternité, en quelque sorte. Donc, il comprend qu'il a un rôle fondamental à jouer, et il va être capable de commencer à construire ce rôle fondamental en montrant, en rêvant. Et rêver, c'est, il faut oser rêver, dans le sens, je dirais comme ça. Il faut oser penser qu'il a un rôle aussi fondamental à jouer, puisque lui, c'est lui qui rêve, et au sommet de l'échelle, il y a de nouveau son image, comme vous savez.
Cette façon d'oser là,
Je pense que c'est les deux. Je pense que le bitachon ne veut pas dire qu'on sera totalement passif. Le bitachon, ça veut dire je sens que je peux construire. J'ai confiance que je peux, que ma construction ne sera pas une construction, elle ne sera pas vaine, que je peux oser construire. Amar Rabbi Abbaou, divrei chalomot lo ma'alin velo moridin. Alors là, les rêves n'ont qu'une importance. Ça ne fait pas monter, ça ne fait pas descendre. Tout de suite, lui il rêve, et puis Rabbi Abbaou il vient et dit, tchac, il casse. Il n'est pas né, Yosef. Alors, on va illustrer ça. Chad Barnash, Azal le Gaber Rabbi Yosef Bachalafta. Un homme est allé chez Rabbi Yosef Bachalafta. Amar le Chamid Bechalmi. Alors, il est allé chez lui et il lui a dit Chamid Bechalmi, c'est-à-dire Raiti Bachalomi, Shamrouli. J'ai vu dans mon rêve Amrin li que on me disait Zil sav palia davur min kabutkia. J'ai vu dans mon rêve que on me disait va en Cappadoce, Cappadoce recevoir l'héritage de ton père. Alors, Amarle, alors il lui a dit, Rabbi Yosef lui a dit, Vazal avour le Kapotkia, ton père il a été une fois en Cappadoce, mignomé de toute sa vie. Alors il lui a répondu, ben non, jamais. Amarle, l'or. Amarle, Zil, mené kaf charié bekarsa de betar. At Mashratle. Alors il lui a dit, va et compte les poutres dans ta maison, tu trouveras l'héritage dans la 20e. Ils ont parlé l'Edba Kaf. Il a dit, il y a un petit problème, il n'y a pas 20 poutres. Amarle, vi led beon kaf, mene min racheon, le soferon, min soferon, le rocheon, veat mashkat, mashkach. Ah, il a dit, ben, c'est pas grave. T'as qu'à compter dans un sens, puis après tu comptes dans l'autre sens. Tu trouveras bien 20, t'as qu'à faire le tour plusieurs fois. Azal manab ashkarken. Il est allé, il a fait le compte comme ça, et il a trouvé. Ah, vous ne saviez pas, je voyais que tout le monde riait, etc. Hein, c'est ça. Alors, bon, ben, il y a un peu. On voulait bien savoir, oui. Alors, Minayin Yalifla, Rabbi Yossi Bar Chalavta, et d'où est-ce qu'il a appris ça, Rabbi Yossi Bar Chalavta, que c'était dans la 20e? Parce que Min Kabotkia, bon, il a dû l'apprendre. Il dit, le Rabbi Yosef, il dit que dans Echa Rabati, on dit que c'est pas Kapot Kia, mais Kabat Kia, Kappa, Belashon Yavan, Esrim. דווקא בלשון יוון קורות. דוקיה, פרלון. דוקיה בלשון יוון קורות. דקור. קפה היא דוקיה, הפרסון כי, פרסון של גרק, איסי.
כאן.
כאן?
פס, אפשר זן. C'est comme, vous voyez, c'est le même système, si vous voulez, que pour les lettres hébraïques.
Oui.
Sauf que là, c'est le raf, et là, ça fait kappa, c'est vers 20 en grec.
Très bien.
Oui, c'est le même système de compte.
Oui, pour, là, j'ai compris. Et les poutres, là?
Alors là, je sèche.
D'accord. Bon, ça va, vous aurez 50%. D'accord. C'est pas mal, 50%, ne vous plaignez pas. C'est déjà pas mal.
Exactement, je peux vérifier tout de suite.
Non, c'est pas nécessaire. On vous croit sur parole. Je sais que vous ne savez pas. Bien. Bon, ben voilà, il suffisait de savoir le grec. Hein. Donc il a vérifié qu'il n'est jamais été là-bas et que ça ne peut pas vouloir dire la Cappadoce, donc il faut le décomposer. Ça doit être d'une autre manière. Si, ça se trouve, il pourrait peut-être bien parler grec. Donc lui, Tani Bar Kapara, l'être halom chez l'opitron. Il n'y a pas de rêve qui n'ait pas une explication. Donc on a Rebbe Abaou qui dit ça ne change rien. Et puis il lui dit, mais il n'y a pas de rêve qui n'ait pas d'explication. Il faut toujours interpréter le rêve d'une manière ou d'une autre. Veine Sulam Zea Kevesh. Mutsav Arza Zea Mizbeach. מזבח אדמה תעשה לי, וראשו מגיע השמיים אלו הקורבנות, שריחן עולה לשמיים, והנה מלאכי אלוקים, אלו כהנים גדולים, עולים ויורדים בו, שהם עולים ויורדים בכבש, וכבש זה לפלן קליני דקסה או בית המזבח. והנה השם ניצב עליו, השם את עוד לסולם, C'est marqué dans le pasouk, Raïti et Hachem, Nitzav al Hamizberg. J'ai vu Hachem qui était debout sur le au-dessus du Misberg. Ça, c'est une interprétation, donc. Interprétation du rêve de Yaakov sous la forme. On lui a montré ici le fonctionnement du Beth Amikdash, visiblement. Donc il rêve du fonctionnement du Beth Amikdash. Pardon? Oui. Ou bien c'est de toute manière, certains disent que de toute façon, Mishkan, Beth Amikdash, il aurait lieu, mais seulement il a lieu à la fin des temps. Rabbanan, Patrin, le Bessinaï. Les Rabbanan, ils ont interprété ce rêve non pas comme le Beth Amikdash, mais comme le Sinaï. Vayachalom, vine sulam ze Sinaï. Mutsav arza, il repose sur la terre. Vayitsi atfu, tartitahar. Les Israël, ils se sont tenus au pied de la montagne. Vurosho magia shamaima, vehar boer baesh, adleva shamaim. Et la montagne était en feu jusqu'au cœur du ciel. Dabaracher, vine sulam ze Sinai. Pourquoi? Parce que, otiot de den, ou otiot de den. Ce sont les mêmes lettres. La même valeur, en fait. Sulam, ça me reclame de même. C'est 130. Et Sinai, c'est aussi 130. והנה מלאכי אלוקים על שם רכב אלוקים רבותיים אלפי שינן ולמדנו לנביאים שנקראו מלאכים לנביאים שמפלי מלאכים דזנש תכתיב היומר חגי מלאך השם ומלאכות השם לעם והנה מלאכי אלוקים זה משה ואהרון עולים ומשה עלה אל האלוקים ויורדים זה משה וירד משה והנה השם ניצב עליו וירד השם על הר סיני אל ראש ההר רב סלמוני בשם ריש לקיש אמר תרכוסה של גימל רגליים הראה לו on revient tout de suite là-dessus donc qu'est-ce qu'il lui a dit lui il a interprété ou bien le Sinaï et que les malachim c'est Moshe et Aaron donc ou bien le, on a donc deux lectures ou le fonctionnement du Beth Amikdash ou le Sinaï. En d'autres termes, on a montré à Yaakov la avoda, fonctionnement du Beth Amikdash, et le don de la Torah, et la Torah. Ensuite, donc ce Rav Salmoni, au nom de Reish Lakish, il dit que ce qu'on a montré à Yaakov, c'est Tarkosa, Shel Gimel, Raglaim, et Ralo. C'est quoi, c'est un tabouret à trois pieds, quelque chose comme ça? Un trône à trois pieds. Enfin, nous on a Tarkosa, dans la note en français, ils disent qu'il y a une version différente dans laquelle c'est marqué explicitement que c'était un trône. Mais le Matnat Keuna, il dit que le Haroukh a expliqué que c'est un argaz, une caisse. Une caisse à trois pieds. Argaz. Bon, c'est plutôt un tabouret, enfin un trépied, quoi. Rabbi Yoshua ben Sichnin, b'shem Rav Levi Amar, atru regel shlishi. Et on lui a dit, le troisième pied, c'est toi. Idate de Rabbi Yoshua ben Sichnin, b'shem Rav Levi. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yoshua ben Sichnin, déjà, b'shem au nom de Rav Levi, b'shem Rav Levi Amar. Ouais, il avait déjà dit, ki chelek Hashem amo Yaakov chevel nachlato, ma chevel azé, פחות מגימל אין מפקיעין אותו כך האבות אין פחות מגימל. Donc ici lui il a donné cette expression déjà Rav Yoshua ben de Sichnin au nom de Rav Levi il avait déjà été d'Oresh que la part d'Hachem c'est son peuple Yaakov c'est la part de l'héritage c'est comme une corde. En fait, il faut que la corde ait au moins trois brins. De la même manière, ici, les avot doivent aussi avoir trois composantes. L'ensemble des avot, c'est au moins trois composantes. Rabbi Achia Amar, Olam Ushlish Olam Eralo. Il lui a montré un monde et un tiers de monde. Donc, ça veut dire ici, Olam, à la place de Soulam, c'est ça? C'est que ce tiers de monde. dans la Mishnah de Rabbi Eliezer, il dit qu'il lui a montré Olam, c'est-à-dire les 6000 ans, et il lui a montré que dans ces 6000 ans, il y a très alfé 2000 qui sont Kulo Shabbat, qui sont Shabbat. Un tiers qui est Shabbat. C'est-à-dire les temps messianiques, quoi. Olim, donc, en parot mishnaim, c'est Olim, c'est au pluriel, donc il y en avait au moins deux. Viordim shnaim, minayin shamalach shlisho shel olam, d'où est-ce qu'on sait qu'un malach c'est un tiers du monde? Shenema, ou gviato ke tarshish, ou panav ke mare barak, venav ke lapide esh, zrotav marglotav ken nechoshet kalal. Maintenant que on a dit en parchot mishnaim shne malachim chen yordim hare dalet malachim kol echad hu kishlisho shel olam hare shlish olam yoter mishlosha shlishei haolam. Les malachim, comme il y avait quatre, il y avait deux qui montaient et deux qui descendaient. Donc on a quatre tiers en fait. Parce que chacun est un tiers du monde. Un malach c'est un tiers du monde. Pourquoi? Mais ben, c'est un tiers du monde. Et là on a quatre tiers puisqu'ils sont quatre malachim. Donc on a olam ou shlish olam. Un monde et un tiers. Oui, effectivement, ce tiers, ça vient de ce qu'on dit de Tarshish ici, que ça serait un tiers du monde. Je ne sais pas. Est-ce que ça veut dire que c'est un, comme l'océan, quoi, qui serait, qui recouvre je ne sais pas combien, un tiers peut-être du monde? Donc, en fait, ce qu'on montre à. Ce que ce rêve montre à. À Yaakov, on avait vu donc le Beth Amikdash, le don de la Torah. Ici, le fait qu'il serait trois, que lui, il est le troisième pilier du monde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a, on lui a montré qu'en fait, il y avait quelque chose qui dépassait le monde, d'accord, le monde plus un tiers du monde. Ça veut dire que ce qui circule le long de l'échelle en question, c'est plus que le monde. Alors, dans Anaf Yosef, dans la marge de gauche, là, vous avez que à Kavana, il lui dit, qu'est-ce que ça veut dire ici? Il y a Kavana chez Era lo Olam Shalem. Il a montré un monde complet. Ça, c'est un remède chez Eshlo Olam Bifne Atzmo, c'est-à-dire Olam Abba. Il lui a montré qu'il avait accès au Olam Abba et qu'il avait encore Shlish Olam, un tiers du monde dans Olam Azé. Un tiers du monde, c'est-à-dire les temps messianiques, qui sont un tiers du monde. Qu'ils soient un tiers des 6000 ans. Ah, et pourquoi il lui a montré que le monde, Olam Abba, il avait la même durée, semble-t-il, que le monde entier, que le monde, que Olam Azé. Ça, il a l'air de dire, bon, il a voulu, c'est une allusion, quoi, c'est pas qu'Olam Abba avait la même durée, aura la même durée. Donc il lui montre ce à quoi il accède, c'est-à-dire quel est le monde de Yaakov, son monde c'est Olam Abba. Et la partie des temps messianiques qu'il y a dans Olam Azé. C'est-à-dire qu'en fait, on est entièrement, ça c'est toujours cette histoire, que les Bnei Israël, ils sont dans le monde du demain, du Machar, les Olam Abba ou les temps messianiques, etc. Parce que c'est pour ça que quand les Bnei Israël font la guerre contre Amalek, c'est toujours Machar. Moshe Rabbeinu lui dit à Yoshua, ou Machar, et demain je me tiendrai sur la colline, toi tu vas faire la guerre contre Amalek, et demain je me tiendrai, Machar, je me tiendrai. Parce que le monde de l'aujourd'hui, c'est le monde d'Amalek. Il est. Et savent, Amalek, ils sont dans le monde d'aujourd'hui. Pour eux, tout se joue aujourd'hui, il n'y a que aujourd'hui qui est important. Et les Bnei Israël, ils savent qu'ils ont un Machar. Les Bnei Israël, ils ont un Machar, et le Arizal dit que le Machar, ça peut être un Machar l'Achazman. Demain ne veut pas obligatoirement dire demain, mais c'est un futur. C'est un futur et un futur. Peut-être même, comme ici, on voit un futur hors du monde même, hors du Olam Azé. C'est-à-dire que les Bnei Israël doivent savoir que les choses, elles sont ni acquises ni dans un sens, ni dans un autre. Elles ne sont pas parce que c'est comme ça aujourd'hui que ça sera comme ça demain. Ni dans le bon sens, ni dans l'autre sens. Ni que, il ne faut pas désespérer d'aujourd'hui, quand aujourd'hui ça ne va pas, demain ça peut aller. Mais pas non plus avoir un excès de confiance, de penser que puisque c'est aujourd'hui c'est bien, donc tout est déjà joué, donc on n'a pas de problème, demain ça sera aussi comme ça. Les Israël doivent savoir qu'il y a toujours lieu de... Il faut toujours travailler, il ne faut jamais considérer qu'on est arrivé. Quoi. Si les Bnei Israël, ce qu'Hachem a dit au Navi, il lui a dit, « Natati lachem » Je vous ai donné Malchim ben Aondi Maele, c'est-à-dire il a dit les Bnei Israël, ils sont en mouvement. Ceux qui sont Omdim, c'est les anges. Les anges, ils sont que ce qu'ils sont. Ils ne sont pas susceptibles d'évolution. Et les Bnei Israël, eux, sont en évolution permanente. Et donc, c'est ce qu'on lui a montré, effectivement, c'est que le monde des Bnei Israël, c'est un monde de l'après, un monde du Machar, du demain. On ne peut pas faire la guerre d'ailleurs, on voit très bien que même pour faire la guerre, on attend demain. Toujours demain. La guerre contre Amalek. On dit aussi, Esther aussi, enfin, il faut affronter Aman, c'est-à-dire Amalek. Alors, quand le roi lui dit, qu'est-ce que tu veux, il dit, demain, viens demain je te dirai. Machar y aotazé, c'est-à-dire demain. Demain, on verra. Et même quand les Bnei Israël ont tué leurs ennemis à Shushan, alors Esther demande à Achashverosh et Machar que demain soit comme aujourd'hui. Qu'on puisse, qu'il y ait aussi encore un demain. C'est entièrement construit dans le monde du demain, au sens où on peut dire d'une certaine façon que par rapport à ça, les Bnei Israël. Ils inventent le futur. Quoi. Et peut-être que cette construction du futur dans la langue avec le vav qui inverse, qui prend le passé et qui en fait un futur, quelque part, ça indique justement cette démarche générale fondamental chez les Bnei Israël, de fabriquer du futur. Fabriquer l'essentiel, c'est fabriquer du futur. Et on voit très bien que ce qui le rêve de Yaakov, c'est quoi? C'est il a osé rêver un futur. Il a rêvé à la Avoda, il a rêvé à la Matan Torah, il a rêvé au Lamaba. Enfin, Lamaba est autant messianique. Et ça, en fait, qui lui donne la force d'aller de là-bas. Donc, à la limite, il va entrer dans un présent qui va être très, très négatif. Il va falloir se battre contre Lavan. Bikesh Lavan la Kor et Akol, n'est-ce pas? Il va être confronté à quelqu'un qui veut tout détruire. Lavan veut faire échouer complètement le projet de Yaakov. Il fait tout ce qu'il peut pour cela. Comme on dit dans la Haggadah, Paro, il a voulu tuer les gens, mais Lavan, c'est encore bien pire. Lavan voulait vraiment Bikesh la Kor et Akol. Donc c'est ça la grandeur de ce qui nous est rapporté ici, cette histoire de le rêve, pourquoi on nous raconte le rêve, etc. C'est parce que il y a un moment où ça n'existe qu'en rêve, bien sûr. Mais on voit qu'on ne tient pas comme Rabbi Abba ou que les rêves l'homme a l'aim et l'homme oride. Mais peut-être que ce que Rabbi Abba veut dire quand on y dit que les rêves c'est l'homme a l'aim et l'homme oride, ça fait ni monter ni descendre. Il veut pas, c'est pas le rêve qui détermine les choses. C'est ce que tu vas en faire de ce rêve. C'est de l'interprétation. Le rêve, par lui-même, il n'a aucune signification propre. C'est pas que tu vas trouver la signification du rêve quand tu l'interprètes. Tu vas donner une signification au rêve. Donc tu vas fabriquer un futur à partir de ce matériau qui t'est donné. On te donne un matériau de rêve, et on voit dans le Chazal que c'est quasiment comme de l'ouate. Tu peux enlever des morceaux, tu peux leur donner une forme différente, etc. Et à quoi l'olé rafarapé, et tout le rêve va aller d'après l'interprétation que tu vas lui donner. Le rêve est un matériau à partir duquel tu dois construire quelque chose. Et c'est ça, la grandeur donc de Yaakov. On peut dire le clan d'Israël dans sa réalisation quand il va devenir clan d'Israël. Parce que là, on est seulement un qui a donné un, Abraham qui a donné Yitzhak, et Yitzhak qui a donné Yaakov. Il n'y a pas de clan Israël encore. Il n'est pas encore marié, etc. Donc, oser penser le futur. Et penser le futur, Avodat Hashem, Bet HaMikdash, Matan Torah, et Olam Haba, et Mashiach. Enfin, dans l'ordre, Mashiach et Olam Haba. Ça, c'est la grandeur de Yaakov, c'est d'avoir osé penser ça. Et on voit très bien que, de la même manière que lui, il a rêvé, et puis ensuite, ben, ça va se réaliser. Et on peut dire que c'était ça aussi sa démarche, quand il dit les Teilim. Ben, il dit les Teilim qui mentionne son nom, et quelque part, il dit, ben, Israël, ça sera moi. Il n'est pas encore Israël, Hachem ne lui a rien dit à ce moment-là. Et dans les Tehillim en question, on parle d'Israël, d'où il sait que c'est lui. Il a décidé que ça sera lui. Décidé. Il ose penser que ça pourrait être lui. On a vu plus haut qu'il s'était demandé, dans l'histoire des pierres, vous vous souvenez, la semaine dernière. Il a dit, est-ce que je serai le troisième pilier ou pas? Il a pris trois pierres, et si les pierres s'unifient, ça veut dire que je suis le troisième pilier. Et que je vais être mamie de le clan d'Israël. Donc là aussi, il interprète les choses. Je veux dire que c'est une interprétation d'après coup. Il dit, tiens, j'ai mis des pierres et maintenant tout à coup il y a une espèce. Je sais pas, ces pierres, elles ont l'air de s'être unies. Alors je ne sais pas où ça a bougé, hein, tout à coup il n'y a qu'une seule pierre. Quoi. Donc il interprète ça comme ça. C'est tout dans la même veine, en quelque sorte. Sur Olim ve Yordim, Rabbi Priya ve Rabbi Yanaï, Hadama Olim Veyordim Basulam, Hadama Olim Veyordim Beyakov. Avchia et Rabianaï, je ne sais pas qui, lequel des deux dit quoi, mais l'un dit que c'est les anges qui sont Olim Veyordim. Les anges montent sur l'échelle. Et l'un dit non, Olim Veyordim Beyakov. Littéralement, ça veut dire ils montent et ils descendent. Ces anges disent montent et ils descendent. Le long de Yaakov, c'est lui l'échelle. Alors là, le Midrash dit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils vont monter et descendre sur Yaakov? Mandama, Olim Veyordim Basulam, Nicha. Si on dit les anges montent et descendent sur le long de l'échelle, ça va bien, on comprend. Mandama Olim Veyordim Beyakov. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils montent et ils descendent dans Yaakov? Ça veut dire Olim Veyordim Malim ou Moridim Bo Ofzim Bo Kavzim Bo Sontim Bo Shenemar Israël Asher Becha Et Paer Atu She Ikonin Shelcha Chakuka Lemala. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ils montent et ils descendent. C'est-à-dire les anges ballottaient Yaakov. Ils l'élevaient, ils l'abaissaient. Ils disent, ils bondissaient, ils dansaient, ils se moquaient. Donc il dit, c'est écrit, Israël, Asher Becha et Paer. C'est Hachem qui dit, Israël, tu es donc celui en lequel en qui je me glorifierai, dit Hachem. À tout, c'est toi? Toi, chez Ikunim Shelcha, Chakuka Lemala. Ton icône, elle est gravée dans le trône divin. Olim Lemala, les anges montaient, Ruim Ikunim Shelo, ils voyaient l'icône de Yaakov gravée. Il redescendait le matin au Motsi Moto Yachin et il voyait qu'il était en bas de l'échelle en train de dormir. C'est-à-dire, il ne comprenait pas. Son image était parfaite, quoi. Tel qu'il était en bas, il était en haut aussi. Alors le Midrash donne un machal. Le Melech Shaya Yoshev Vedan, un roi qui juge. Il a installé, il juge, Olim le Basilki Umotsi Moto Dan. On monte dans son palais, un Basilik, je ne sais pas ce que ça veut dire donc. Le portique de l'Archon III.
Basilique, c'est le nom du roi.
Oui.
Basileux, c'est le roi.
Umosi Motodan, et il le voit juger. Viosim Baparva, il sort. Baparva, dit ici. Il sort dans les faubourgs. Umosi Moto Yachen, il voit qu'il est en train de dormir. D'abord, Acher, le Malan. Kol mi shehu omer zchuto ole, chovato yored. Autre chose. En haut, tout celui qui dit des choses en faveur de Yaakov monte. Celui qui dit quelque chose de négatif descend. Et le matan, kol mi shehu omer zchuto yored. Et en bas, si on dit son mérite, on descend. Chovato, olé. Si on dit son démérite, on monte. Qu'est-ce que ça veut dire? En haut, en bas, en haut, on comprend, monter et descendre. Mais en bas, qu'est-ce que, où on peut monter et descendre, dans quoi, par rapport à quoi? Celui qui monte ou descend, le fit. C'est écrit dans Kolim Veyordimbo. Et bon, l'amazé, celui qui dit du bien du clan Israël, ou Yored, il descend, parce que les Bnei Israël sont mal vus en quelque sorte. Va Metzar Laen à Seroche. Ceux qui font des ennuis aux Bnei Israël deviennent des chefs. Donc c'est vraiment en miroir, quoi. Donc on dit ici, Olim, c'est Otam Shelivu Oto Be'eretz Israël. Les anges qui ont accompagné Yaakov en Eretz Israël. Il est en train de sortir d'Eretz Israël. Donc les anges qui l'ont accompagné, Yordim, ils descendent. Elo Shelivu Oto Be'chutz La'aretz. Ah, le contraire. Olim, c'est ceux qui l'ont accompagné en Eretz Israël, et Yordim, c'est ceux qui l'ont accompagné en Chutz La'aretz. Et Rab Levi, Bechem Rab Shmuel, Bar Nachman, Amar, Malachi Asharet, les anges de service, à l'idée, chez Gilou, Mistorin, chez la Kadosh Baruch Hu, Nitru, Mimichitzatan, Kuf Lamed Chet Shana. Les anges de service qui ont dévoilé le mystère de la Kadosh Baruch Hu, ils ont été exclus pour 138 ans. Rav Tanchuma avait ma pique, l'Ishna Kala, lui voulait affaiblir un peu Rav Tanchuma. Ce qu'on disait, c'est pas qu'ils ont dévoilé le mystère d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'ils ont dit, là, ils se sont glorifiés eux-mêmes. Alors là-dessus, Amar Avchama Bar Chanina, Alede Shinit Gaou Veamrou Kimashritim Anachnu Et Amakom Azé, les anges qui ont dit au sujet de Sdom, ils ont dit à Abraham, nous allons détruire. C'est ce lieu-là, ce Sdom, ils ont été punis parce qu'ils ont fait comme si c'était eux qui décidaient. Azechan Chazrou, où est-ce que ils ont été exilés, quoi? Kan, c'est-à-dire, ils ont été chassés, 138 ans. Quand est-ce qu'on voit qu'ils reviennent d'avoir été chassés? Ben ici. Olim ve'yordim. Olim ve'achakach yordim. Ils montent et ensuite ils redescendent. Donc on peut dire que ces anges qui montent et qui descendent, c'est les anges qui sont en charge d'accompagner Yaakov. Yaakov sort d'Eretz Israël, donc les anges qui l'ont accompagné jusque-là, ils ont fini leur service, ils remontent à la résidence des anges. Et puis il y a les anges qui sont préposés à l'accompagner en Chutz La'aretz, ceux-là descendent de leur résidence et ils vont accompagner Yaakov dans ces pérégrinations chez Lavan, etc. Maintenant, on nous parle de Malachim qui auraient donc dévoilé le mystère d'Akadosh Baruch Hu, un secret. Alors, je ne sais pas exactement quel secret ils ont bien pu. Si je le savais, ce ne serait pas un secret. Mais... Et à qui ils l'ont dévoilé? Peut-être que c'est ça le secret d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'avoir dit qu'on va détruire Sdom. C'est pas d'avoir pris à leur compte le fait d'avoir détruit Sdom, mais ça, ils ont dévoilé quelque chose que Hachem leur avait dit, mais qu'ils n'étaient pas censés dire. Eux, ils n'ont pas le dire. C'est ça le mystère, le secret. Alors le Rashi sur la, il dit que sur ce, dans la colonne de droite, de gauche, il dit on peut compter à partir du moment où ils ont dit Kimashriti Manachnu, ils ont dit au temps d'Avraham Avinu, nous allons détruire Sdom, et l'année d'après Shana Acheret Nolad Yitzhak, d'accord. L'année d'après, Yitzhak est né. Et c'est marqué Yitzhak ben Shishim Shana Beledet Otam. Et il a 60 ans quand il met, quand Yaakov et Esav sont nés. Et Yaakov ici, il a 63 ans. Donc ça fait 60 et 63 et 1. Et 64 donc. Ça fait 124. Ensuite, il est resté 14 ans chez Mev, dans la maison de Hever. On était à 124, 128, 138. Ça fait les 138 ans en question, n'est-ce pas? On avait 124 et maintenant, on ajoute 14 ans chez Hever. C'est les 138 ans pendant lesquels les anges qui avaient dit nous détruisons Sdom, ils ont été punis. Quand est-ce qu'ils reviennent? Ils reviennent ici. Et Rav Tanchuma dit, ils reviennent ici après 138 ans. C'est ces anges qui maintenant, qui olim veyordim, olim veachakar yordim. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Olim Arkar Yordim. C'est le Kach Nakat Olim Trila qui otam shekvar nitru nitkavu nitkablu vinitan lahem reshut la'alot veshuv yardu bishlichut Hashem lenavot et Yaakov. Ce qui s'est passé, c'est que d'abord, il a fallu qu'ils montent pour qu'on les accède, montrer qu'ils étaient le nouveau persona, enfin, comment ce qu'on dit, des anges agréés. Et une fois que ils ont été agréés, ben ils ont été envoyés pour accompagner Yaakov. Donc ils ont été chassés, et on aurait pu imaginer qu'ils reviennent de... Bon, je sais pas d'où, on ne sait pas où ils sont allés pour être chassés. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas été chassés et rappelés en haut, parce que sinon ils auraient dû descendre d'abord puis remonter. Non, il faut d'abord qu'ils montent, donc ils viennent, ils ont dû rester quelque part sur terre, ces anges, enfin, ou en bas, puisque maintenant il faut qu'il monte pour être agréé. Ça veut dire que pendant tout ce temps-là, il n'a pas été agréé. Tout ce temps-là, ils n'étaient pas en haut, je ne sais pas où ils étaient. Oui, sans doute, c'est bien. Ouais, mais c'est aussi au prix de compter différemment, quoi. Tu comptes comme si on devait s'arrêter. On compte de droite, de gauche à droite ou de droite à gauche, mais une fois. Mais qui te dit qu'on ne peut pas compter plusieurs fois? 20, ça veut pas obligatoirement dire que... Alors ça, c'est peut-être cette idée, justement, de la différence qu'il y a entre le linéaire et le circulaire. Compter et revenir, ça veut dire que c'est circulaire. Tu sais pas, tu comptes, c'est tout. Personne ne te dit quand tu t'arrêtes. Tu dis, tu t'arrêtes à 20. Tu commences à compter, après tu t'arrêtes à 20. Combien de tours il faut faire, ben, on verra. Combien de temps tu as besoin de... Bon, c'est ça le problème, justement, c'est que les Bnei Israël, si vous voulez, s'arrêter à la question linéaire, purement linéaire, c'est introduire une hiérarchie. Quand c'est purement linéaire, alors il y a le premier, il y a le deuxième, le troisième, etc. Mais quand c'est en cercle, alors ils sont tous sur le même plan. Donc tu peux compter un, deux, trois, etc. Mais c'est pas, il y a pas de, on n'est pas plus proche de quoi que ce soit. Par définition, en cercle, on est toujours tous au même. Or, on voit très bien que Akadosh Baruch Hu, à la fin des temps, c'est marqué, à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il va faire une ronde avec tous les tzadikim, et lui, il sera au milieu, et tous les tzadikim vont montrer du doigt, Zekeli Verndeu, ça c'est Hachem, c'est lui qui nous a sauvés, mais tous les tzadikim, tout le monde sera à la même distance, il n'y a pas de hiérarchie, si on veut. C'est la question de la hiérarchie, c'est celle qui a fait que Yerovam s'est perdu. Vous connaissez l'histoire, quand Yerovam, c'était un super tzadik, au point que quand le fils de Shlomo HaMelech, Rehovam, a été disqualifié comme roi de tout Israël, on a donné 10 des 12 tribus du clan Israël à Yerovam. Vous imaginez comment il devait être grand pour qu'on lui donne à lui 10 des 12 tribus de l'héritage de David, alors qu'il n'était même pas d'ascendance royale. Il n'était pas de la tribu de Yehuda. Et on a enlevé tout ça. Et à ce moment-là, il y a eu la fameuse histoire, mais Rehovam, il habitait Yerushalayim. Il y avait le Beth Amikdash, il y avait trois fois par an, il fallait aller en pèlerinage à Yerushalayim. Alors Yerovam, il a dit, mais comment je peux laisser mes sujets aller là-bas? Et bien sûr qu'ils devront faire un peu allégeance à Rehovam, puisqu'on ne peut pas aller, le palais du roi, il est à côté du Beth Amikdash. Tu ne peux pas aller cracher sur le roi et puis aller, il ne va pas te laisser aller. Donc il faudra faire un peu allégeance. Alors j'ai dit, alors, je te donne les tribus, de quoi tu as peur? Ils vont faire un peu allégeance, quelle importance ça? Il dit, je peux pas, c'est impossible. Alors finalement, Hachem lui a dit, écoute, si tu fais ce que je te dis, alors toi, enfin, c'est Hachem qui parle. Hachem dit, moi, David et toi, on se promènera dans le Gan Eden. Vous voyez ce qui lui est offert? Il lui est offert d'être sur le même plan que David, qui est deux générations avant lui. David, qui est l'ancêtre du Mashiach, lui, il va être avec David, seul, avec Hachem, auprès d'Hachem. Alors Yerovam, il dit, mais qui va marcher devant? David ou moi? Il s'est dit, il y en a sûrement un qui va marcher devant. Alors Hachem dit, si tu demandes, alors ce ne sera pas toi, ce sera David. Mais il n'y avait pas à demander, puisque sinon, avec Hachem, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Hachem est au centre, et ils auraient été tous les deux comme deux électrons autour du noyau. Il n'y avait personne qui était devant. Lui, il a cru qu'il y avait obligatoirement un devant et un qui était en devant, qui était en premier et l'autre qui était en dernier. Il n'a pas imaginé. Et il a dit, non, je ne peux pas. Si ce n'est pas moi, je peux m'écraser dans ce monde si tu me promets que dans le futur, c'est moi qui serai devant. Mais si je n'ai pas la garantie que dans le futur je serai devant, je n'ai pas la force de m'écraser. Et il est devenu, lui, qui était le super tzadik auquel on a donné 10 tribus, il est devenu le modèle, non, un petit modèle, il est le modèle de l'idolâtrie. Il est tombé du plus haut, il est tombé au plus bas. Pourquoi? À cause de ce problème de hiérarchie. Il n'a pas pensé, donc il y a cette idée, effectivement. Personne ne te dit qu'on doit compter obligatoirement, linéairement, où il y a au premier, deuxième, c'est aussi une hiérarchie. Quand tu comptes 1, 2, 3, c'est pas du tout une hiérarchie, puisque tu peux commencer n'importe où, en fait. Mais l'idée, c'est que si on prend le temps et qu'on le voit comme circulaire, alors le risque, c'est qu'on tombe dans l'éternel retour. Et pour sortir de l'éternel retour, il faut imaginer qu'on n'est pas sur un cercle, et qu'en fait, le cercle n'est que la projection, on est sur une hélice. Enfin, c'est un truc, c'est seulement en projection que c'est un cercle. En vérité, il y a la dimension du temps. Donc c'est vrai qu'on passe par les mêmes, on passe à la verticale des mêmes moments de Pessah. Toutes les années, on repasse par Pessah, mais on espère que si cette année on a passé Pessah à cette hauteur-là, on espère que l'an prochain, on sera à Pessah à cette hauteur-là. Et ensuite, on va monter. Alors en projection, effectivement, si on ne tient pas compte du temps, alors on a l'impression que c'est de l'éternel retour. On repasse toujours par Pessah, Shavuot, Sukkot, Pessah, Shavuot, Sukkot, etc. Mais il n'en est rien. À la verticale de Pessah, Shavuot, Sukkot, mais chaque fois à une hauteur différente. Si on avance. On va s'arrêter là. Alors, il faut que je dise qu'il n'y aura pas de chiour jeudi prochain.
Ni celui d'après.
Ni celui d'après. Vous avez 2 semaines de vacances. Tout le monde n'a pas l'air.
Dimanche là.
Ce dimanche, il y aura encore cours. Dimanche, mais qu'est-ce qu'il y a comme... C'est un cours de dames.
Non, des messieurs aussi.
Je suis d'avant, c'est pas le soir, ouais. Enfin bon. Alors, il y aura cours dimanche, il y aura encore cours. Il y aura cours dimanche, donc il y aura cours lundi, mardi, mais c'est tout. Et après, de mercredi jusqu'à. Après Shabbat, Vaishlach, il n'y aura pas cours. Bien, je me souhaite de bonnes vacances.
Le prochain cours, c'est le 6 décembre.
Le cours de jeudi, c'est un jeudi, le 6 décembre.
Ouais.
Eh bien, vous avez raison.
Mais par contre, il y a quand même les samedis premiers, mais la loi se fait.
Oui. Attendez, oui, pardon, qu'est-ce qu'il y a?
Le lundi 4, oui.
Non, il y aura cours, mais lui, il s'intéresse qu'au cours. Pour ça que j'ai dit, ce cours-ci. Il y aura cours, je vous ai dit, après Shabbat Vaishlach, il y aura cours. Merci Hachem. Bonsoir.